Vous êtes sur RTL.
Avec Cdiscount.
RTL Matin, Thomas Hugues.
Et Dominique Tenza pour un journal complet à 7h sur RTL. Bonjour Dominique.
Bonjour Thomas et bonjour à tous.
C'est la première grande réforme sociale du quinquennat Macron. Le projet de loi bioéthique est présenté ce matin en Conseil des ministres.
Et si l'extension de la PMA éclipse tout le reste du texte, un autre article risque pourtant de faire polémique, la fin de l'anonymat du don de sperme. On vous explique ça dans un instant. 80 départements en alerte canicule, le chiffre est impressionnant, c'est tout le pays qui suffoque. Nous partirons à Tour dans ce journal où le mercure affiche déjà 27 degrés ce matin. À suivre également, François de Rugy, « Je suis un homme blanchi », dit-il. C'est aussi un homme en colère, vous l'entendrez. La riposte de Michel-Édouard Leclerc qui dénonce l'acharnement du gouvernement après l'amende qui lui a été infligée en début de semaine. Et puis l'histoire incroyable de cet homme aux États-Unis resté bloqué 10 ans derrière un congélateur. Son cadavre vient d'être retrouvé. Le Tour de France, 17e étape ce mercredi, 200 kilomètres entre Nîmes et Gap.
Certains s'en inquiètent, d'autres s'en réjouissent. Le texte qui prévoit l'extension de la procréation médicalement assistée est présenté ce matin en Conseil des ministres.
Elle sera bientôt possible pour toutes les femmes, les couples de lesbiennes et les femmes célibataires. Et la démarche sera remboursée par la Sécu. C'était une promesse du président Macron. Mais la PMA n'est qu'un des aspects de ce projet de loi bioéthique qui sera discuté à l'automne à l'Assemblée. Un autre article qui concerne cette fois le don de sperme pourrait bien, lui aussi, susciter des inquiétudes. Aujourd'hui, ce don est anonyme, mais demain, l'enfant pourra, à sa majorité, avoir accès à ses origines, si le donneur est évidemment consentant. Une évolution dont se réjouit cette jeune femme qu'a rencontrée pour RTL Nicolas Burnand.
Âgée de 30 ans, Laura est née d'un don de gamètes anonyme. Il y a 9 ans, lors d'un repas de famille, ses parents lui ont appris l'histoire de sa conception.
Ils nous avaient réunis, ma sœur et moi, pour nous annoncer qu'on était issus d'un don de sperme. Le choc n'est pas tellement j'ai été conçue par donneur, le choc c'est le mensonge pendant 21 ans. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre, c'est que pour eux c'était une honte, la stérilité.
Depuis, elle recherche désespérément son père biologique, a effectué des tests ADN en ligne sans succès. Aujourd'hui, elle espère que la loi pourra lui permettre de connaître l'identité de son donneur si celui-ci accepte.
J'aimerais lui demander pourquoi il a donné, d'où vient un certain trait de caractère, d'où vient la ressemblance physique. Quand on me dit « je connais quelqu'un qui te ressemble beaucoup », je me dis « est-ce que c'est peut-être ma demi-sœur génétique ?» J'en sais rien. C'est un point d'interrogation qui flotte.
Mais la jeune femme prévient, elle ne souhaite pas un parent de substitution.
Mon père a accepté de ne pas être le géniteur, ma mère a accepté un géniteur qu'elle ne connaissait pas. Donc je trouve que c'est une preuve d'amour énorme. Le donneur, c'est juste celui qui m'a légué une partie de mon ADN.
Une identité, un espoir qui repose quelque part sur une étagère dans l'un des 22 centres de conservation de sperme en France.
Le reportage de Nicolas Burnand pour RTL.
Le bien nommé. Le chiffre est impressionnant. Ce matin, 80 départements placés en vigilance canicule.
Et des records de température ont de nouveau été battus la nuit dernière. Épisode de courte durée. La fin, heureusement, est prévue pour demain soir, mais d'une intensité exceptionnelle, vous le disiez Thomas il y a quelques minutes. Et dans ces conditions, eh bien, tout devient compliqué. Comme sortir par exemple faire le marché. Bonjour Vincent Serrano.
Bonjour.
Vous êtes à Tours pour RTL, une ville qui suffoque depuis hier. Il fait déjà 27 degrés ce matin et on a exceptionnellement avancé l'horaire du marché.
Eh oui, absolument. Pour profiter d'un peu de fraîcheur, le marché est avancé d'une bonne heure. Alors 27 degrés, c'est la température qu'indique la camionnette de Lulu, c'est la doyenne des maraîchers. Lulu, vous êtes à côté de moi et vous avez des petits yeux quand même.
Assez compliqué quand il fait chaud, parce que là, la température, je me pose la question, ça a été vraiment tombé. Je vais vous dire franchement, c'est un peu trop pour le matin, ça. Pour avoir 41 cet après-midi, non, c'est bon. Ah ouais, mais là, c'est ras-le-bol. Non, non, moi, je supporte pas la chaleur déjà. Un peu bizarroïde.
Alors vous en profitez avant l'arrivée des premiers clients, vous mangez une pêche, quoi.
Bah ouais.
Parfois, leur en vente.
Oui, mais celle-ci était un peu mûre, donc autant que ce soit moi qui en profite.
Allez, on vous laisse servir les premiers clients. Mariella, par exemple, vous êtes bien matinale aujourd'hui.
Oui, oui, il y a moins de clients, c'est moins la cohue et c'est plus facile. Et puis, plus frais en plus.
Ah bah, écoutez, c'est très dur de s'endormir parce qu'il fait très chaud et qu'on le réveille sonne le matin, il faut quand même y aller. Donc,
faut avoir un peu la patate quand même.
Et pour avoir la patate, qu'est-ce que vous allez acheter?
Eh bien, on va acheter de la vitamine, des fruits de saison, lesquels en ce moment, c'est les pêches.
Et on retourne très vite à la maison pour reprofiter de la chaleur?
Oui, c'est ça. On va d'abord travailler aussi un petit peu. Et puis ensuite, voilà, on rentre se mettre un petit peu au frais, on va dire.
Oui, alors Mariella a de la chance. Elle travaille dans un lieu climatisé. Une chance que n'ont pas tous ces maraîchers qui vont quand même pouvoir se réjouir de finir un peu plus tôt en fin de matinée.
Allez, bon courage à tous. Vincent Serrano à Tours pour RTL. La chaleur, la sécheresse à l'origine d'un incendie hier dans l'Essonne. 300 hectares de terre ont été détruits dans la commune de Boutervilliers. Plusieurs départs de feu ont d'ailleurs eu lieu dans le sud de ce département. Et puis c'est sans doute aussi un incendie qui est à l'origine des perturbations de trafic hier en gare de Mulhouse. Un transformateur aurait pris feu. Le mercure affichait 36 degrés hier dans la gare où des bouteilles d'eau ont été distribuées aux nombreux voyageurs.
Soulagé, mais pas forcément apaisé. François Drugy s'est exprimé hier pour la première fois depuis sa démission.
Les deux enquêtes menées par l'Assemblée et par le gouvernement ont montré qu'il n'y avait a priori rien d'illégal dans ses dépenses. Oui, les travaux de son appartement de fonction étaient justifiés. Quant au dîner organisé alors qu'il était président de l'Assemblée, ils n'ont rien d'anormal, même si le rapport note des prestations nettement supérieures aux usages concernant trois repas. Un soulagement pour l'ancien ministre, invité du 20h de France 2.
Je me présente devant vous ce soir en homme blanchi. Blanchi de toutes les accusations qui ont été portées contre moi. Et Dieu sait s'il y en a eu des accusations. Il y a eu des centaines d'articles qui m'accusaient ou qui relayaient des accusations. Certaines étaient fausses, on le savait depuis le début. Elles ont continué à être relayées. Les articles sont toujours en ligne, d'ailleurs. Aujourd'hui, les rapports qui ont été publiés par le secrétariat général du gouvernement ou le rapport de l'Assemblée nationale, eh bien, tout cela me blanchit. Il y a eu une remarque qui a été faite
sur les
par le
dîners.
Rapport de l'Assemblée nationale, même si aucune
Donc,
règle...
sur ces trois dîners, vous
il n'y a eu aucune règle
en les sommes engagées.
Je me conformerai à ce qu'a dit le rapport de l'Assemblée nationale. Et donc, je suis invité, comme je l'ai souhaité, à me mettre en relation avec les autorités compétentes de l'Assemblée qui établiront le montant des frais et je les réglerai.
François Drugy qui a par ailleurs attaqué une nouvelle fois Mediapart, un journalisme de démolition selon lui.
Et justement, sur RTL tout à l'heure, 8h20, l'avocat de François Drugy, maître Pierre-Olivier Sûr, nous dira s'ils ont déjà déposé une plainte pour diffamation contre Mediapart.
Payer ses impôts chez le buraliste, ce sera bientôt possible, annonce ce matin Gérald Darmanin dans la presse régionale. Dès juillet l'an prochain, le ministre du Budget annonce la mise en place d'un partenariat avec la Française des Jeux qui permettra aux contribuables qui le souhaitent d'aller régler ce qu'ils doivent dans les bureaux de tabac. Gérald Darmanin qui par ailleurs confirme dans cette même interview la suppression de 70 000 postes de fonctionnaires territoriaux d'ici 2022, mais également de 15 000 postes cette fois chez les fonctionnaires d'État.
Dans un instant, la découverte aux États-Unis du corps d'un homme resté bloqué, écoutez bien, 10 ans derrière le congélateur d'un magasin. On va vous raconter cette histoire incroyable sur RTL.
RTL Matin 7h08.
RTL Matin.
RTL 7h08, la suite du journal Dominique Tenza, Thomas Hugues.
10 ans qu'il était porté disparu. Le corps d'un homme vient d'être retrouvé dans l'Iowa, coincé derrière le congélateur d'un supermarché.
Victime d'une chute, il aurait glissé derrière l'appareil et serait mort, ses appels à l'aide n'ayant pas été entendus. Le récit aux États-Unis de notre correspondante Pauline Simonet.
Le drame s'est produit en novembre 2009. Après une dispute avec ses parents, le jeune homme de 25 ans quitte précipitamment le domicile, sans chaussures ni chaussettes, en pleine tempête de neige. Il se réfugie alors dans le supermarché où il travaillait, grimpant sur des congélateurs à l'arrière du magasin, un endroit où les employés avaient l'habitude de prendre des pauses à l'abri des regards. Mais le jeune homme fait une chute, glissant dans un mince espace entre le mur et le congélateur. Pris au piège, il ne parvient pas à s'extraire. Ses appels au secours n'ont pu être entendus en raison du bruit des congélateurs. Le corps restera coincé pendant des années, à quelques mètres à peine du passage des clients et des employés. Ce n'est qu'en janvier dernier, plus de 9 ans après sa disparition, que des travailleurs chargés de détruire le site abandonné ont retrouvé ses restes. Un examen ADN a permis de l'identifier formellement cette semaine. En l'absence de traces de coups, la police a conclu à une mort accidentelle.
Un récit signé Pauline Simonet, correspondante de RTL aux États-Unis. Sitôt élu, Boris Johnson n'a plus qu'une seule idée en tête. Il l'a répété hier, sortir de l'Union européenne. Au plus tard, le 31 octobre, le nouveau Premier ministre britannique entre en fonction ce mercredi. Comme l'exige le protocole, il va rencontrer la reine Elisabeth qui lui confiera la responsabilité de former le gouvernement. Michel-Édouard Leclerc n'est pas content et il le fait savoir. Lundi, le gouvernement lui a infligé une amende record, 117 millions d'euros, l'accusant d'avoir fait pression sur ses fournisseurs via l'une de ses centrales d'achat en Belgique, une pratique interdite par la loi. C'est un acharnement, dénonce le patron des hypermarchés, pour qui le seul objectif reste la défense du consommateur. Écoutez-le.
Non mais on vient beaucoup me chercher, il y a beaucoup de gens qui veulent qu'on augmente nos prix. Je me suis disputé avec des membres du gouvernement parce que je trouvais que c'était con pendant les gilets jaunes de nous obliger d'augmenter les prix des grandes marques. Donc aujourd'hui on me le fait payer, on le fait payer au centre Leclerc. Bon, on gagnera cette bataille, il n'y a pas de problème. Moi je suis un grimpeur, hein. Plus on fait pression sur moi et plus j'arriverai au sommet avant. Hein. Moi je veux pédaler pour continuer à vendre moins cher. Vous voyez sur ce tour là, quand on voit la caravane Leclerc, bah, les gens sont contents, ils crient le nom. Et bah, à moi aussi d'être responsable. À nous d'être responsables et je le serai. Malgré la pression, je lâcherai pas, je resterai le moins cher.
Michel-Édouard Leclerc de passage sur le Tour de France et qui en a profité pour se défendre au micro de Christophe Paco.
Le Tour de France, justement, on en parle tout de suite.
RTL, Tour de France 2019.
17e étape ce mercredi, la dernière avant d'attaquer les Alpes.
À 200 km entre Nîmes et Gap, le Français Julien Alaphilippe est toujours maillot jaune. Rester concentré à 4 jours de l'arrivée sur les Champs-Élysées, ne pas se laisser distraire ni par le public exalté sur le bord des routes, parfois même un peu trop, ni par les réseaux sociaux et ce qu'ils s'y racontent. Aujourd'hui, Twitter, Facebook ont envahi nos vies. Le Tour de France n'est pas épargné, les encouragements et les critiques parfois, Quentin Vinet, c'est une réalité et les coureurs doivent faire avec.
Oui, David Gaudu reconnaît qu'il passe plusieurs heures chaque jour sur les réseaux sociaux. Il fait la fouine, comme il dit.
On va dire que le matin, on est sur le téléphone, dans le bus à l'aller, au retour, on est sur le téléphone et voilà, et après le soir, on est sur le téléphone. Après moi, je sais que sur la table de massage, j'essaye de pouvoir le prendre et de me libérer un peu de ça.
C'est une occupation très tentante pendant les 3 semaines du Tour de France. Voilà pourquoi Julien Bernard fait attention.
Sur mon téléphone, j'ai une limite de temps sur les réseaux sociaux. Je me mets pas plus de 3 heures par jour. Au bout de 3 heures, ça coupe tout, donc c'est ce que j'utilise. Ouais.
Une solution pour ne pas se laisser atteindre par les critiques sur la course qui peuvent être formulées en temps réel, fait remarquer Alexis Villermoz.
Oui, je pense qu'il y a beaucoup de propos qui peuvent être blessants, mais aussi une grande majorité quand même qui sont de bon cœur et de toute manière, on sait qu'on fait du mieux possible. Donc moi, personnellement, ça ne m'atteint pas plus que ça.
C'est aussi une façon d'envoyer des messages aux adversaires. Julien Alaphilippe montre tous les jours son maillot jaune à ses 357 000 abonnés sur Instagram. Thibaut Pinot lui remercie souvent ses coéquipiers, mais les directeurs sportifs sont vigilants, précise Anthony Turgis.
C'est sûr que s'il y a quelque chose qui les interpelle, qui va pas, ils nous le diront et s'il faut enlever quelque chose ou si justement il faut mettre quelque chose, un démenti ou quelque chose, voilà.
Les réseaux sociaux font partie du métier, disent certains. D'autres, comme Guillaume Martin, avouent qu'il n'aurait pas de compte s'il n'était pas coureur professionnel.
Merci Quentin Vinet sur la route du Tour de France. Je vous rappelle que vous pouvez suivre toutes les demi-heures sur RTL la course en direct.
Et merci.